Merci de cette invitation. C'est un grand plaisir de pouvoir vous présenter un peu une autre perspective sur ce type de modèle. Donc, je vais d'abord commencer par une introduction pour vous situer un petit peu de quel type de système physique je vais parler, revenir sur le lien avec les processus d'exclusion. Et ensuite, je considérerai trois types d'applications: trafic routier, trafic piétonnier et transport intracellulaire. Donc, ce qui, en tant que physicienne, va m'intéresser en particulier dans ces divers systèmes de transport, c'est de comprendre comment on passe de comportement individuel au comportement collectif. Donc, ça va être vrai pour des molécules de fluide qui vont, à grande échelle, pouvoir former des structures comme des tornades. Mais évidemment, chaque molécule n'a aucune... alors là, on ne peut même pas parler de conscience, mais... Disons que les règles, quand vous voyez les règles avec lesquelles interagissent les molécules, il est difficile comme ça de prévoir que ça peut donner à grande échelle un tourbillon, et pourtant c'est ce qui se passe. Mais de même, on voudrait savoir comment on passe d'une voiture individuelle à des écoulements collectifs, ou pour les piétons, de même. Alors il y a toute une gamme de modèles pour tous ces systèmes qui ont été développés, certains qui vont vraiment regarder l'échelle microscopique, comment se comportent les individus et quelles sont leurs interactions. Et à l'autre bout, on va considérer ces systèmes comme des fluides, donc le fluide voiture, on peut le voir comme un milieu continu, ou une foule également. Et on voudrait comprendre ces différentes échelles. Alors, pour vous familiariser avec ces systèmes, on va commencer par regarder plutôt ce qui se passe à l'échelle macroscopique. Si on voit ces systèmes comme des fluides, comment est-ce que ça se passe ? Quand on a un fluide, alors les équations sont très connues, c'est les équations de Navier-Stokes, et ces équations sont basées sur des bases très solides qui sont des relations de conservation. Il y a une équation qui exprime la conservation de la masse et l'autre la conservation de la quantité de mouvement. Et comme on a deux équations et deux inconnues, la densité et la vitesse, même si les équations sont compliquées à résoudre, on a un cadre bien défini pour étudier le mouvement des fluides. Pour les voitures et les piétons, on a toujours deux inconnues, la densité et la vitesse, mais on n'a qu'une seule équation, la conservation de la masse. Les piétons ne disparaissent pas, ne se volatilisent pas, mais on n'a pas de conservation de la quantité de mouvement puisque ces éléments sont en contact avec le sol. Donc il manque une relation, et ça va être déjà une des premières difficultés. Alors, c'est quelque chose qui a été remarqué il y a longtemps, les tout premiers modèles qui basés fluides datent des années 50. Et la chose la plus simple, c'est on a une première équation qui exprime la conservation de la masse, qui, comme je vous le dis, implique ces deux variables, densité et vitesse. Le plus simple, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait trouver une relation entre la vitesse et la densité ? Alors, pour trouver cette relation, il faut partir de ce qu'on arrive à observer sur les routes. Donc, la méthode la plus simple et la plus classique, c'est d'utiliser des boucles magnétiques. Donc, vous avez sans doute vu devant des feux, par exemple, des rectangles qu'on devine sur la chaussée. Ce sont en fait des boucles magnétiques avec un petit courant qui passe. Et là, elles servent, quand il y a une masse métallique par induction, ça va induire un signal. Donc là, devant un feu, ça sert à savoir s'il y a une voiture, mais il y en a aussi tous les 300 à 500 mètres sur nos autoroutes en région parisienne, par exemple. Et en mettant deux à la suite, on a même la vitesse des voitures. Donc, on arrive comme ça à détecter le passage des voitures et à voir leur vitesse. Et la première chose qu'on trace en trafic routier, c'est ce type de diagramme qu'on a appelé diagramme fondamental, qui donne le flux de voitures, combien de véhicules par heure, en fonction de quelque chose qui est équivalent à la densité, disons. Et on remarque tout de suite que, alors là, il y a trois signaux, parce que c'est les trois fils d'une autoroute, mais on voit tout de suite qu'il y a deux régimes. Il y a un régime où le flux augmente avec la densité, donc ça, c'est le régime libre, où les voitures sont libres de rouler à leur vitesse désirée, mais au-delà d'une certaine densité, on va avoir l'inverse, le flux va décroître avec la densité, on est en phase embouteillée. Alors typiquement, quand on veut compléter ces équations-là, on va deviner par quoi on pourrait fitter ces ensembles de points. Ici, on prend par exemple une forme triangle. Il y a des congrès entiers qui sont destinés à savoir par quelle courbe il faut fitter ces points. Mais une fois qu'on a choisi cette relation, le problème de nouveau est bien posé puisqu'on a deux équations, deux inconnues. Alors, on peut faire des choses plus sophistiquées, je ne vais pas m'étendre ici, je vais passer au piéton. Là aussi, on n'a que la conservation de la masse, mais c'est un peu plus compliqué puisqu'on est en deux dimensions et que chaque piéton a sa propre destination. Ils ne vont pas tous forcément au même endroit. Donc, on a des variables en plus. Et en plus, les données sont plus compliquées à étudier parce qu'il y a moins d'effets inertiels que pour des voitures. Donc, typiquement, quand on veut étudier ces systèmes, il y a plusieurs façons. On peut observer dans la nature, mais on peut aussi faire des expériences. Donc là, c'est un exemple d'expérience qu'on a fait dans le cadre d'un projet interdisciplinaire. Souvent, on étudie les piétons dans un cadre interdisciplinaire. Là, il y avait des mathématiciens, physiciens, des gens d'informatique graphique et même d'éthologie. Et donc, on peut faire varier dans ces expériences la densité de piétons. Là, on a deux destinations, puisqu'il y en a qui tournent dans un sens, d'autres dans l'autre. On peut observer la formation de patterns, etc. Pour là où j'en suis, donc ce qui m'intéresse, c'est juste comment varie la vitesse avec la densité. Je peux le mesurer en mesurant une espèce de densité sur chaque section et en déduire un flux en fonction de la densité des piétons qui vont dans le sens plus et de la densité des piétons qui vont dans le sens moins. Donc là, comme j'ai deux familles de piétons, j'ai deux équations pour la conservation de la masse de chaque sorte de piéton. Et donc maintenant, le V de rho va être remplacé par une fonction flux qui dépend de rho plus et de rho moins. Et je peux, à partir de ces données expérimentales fitées par une courbe, une surface, pardon, on voit que ça ressemble assez bien, et ensuite essayer de simuler ce modèle. On part des mêmes conditions initiales. Donc là, on a la position et le temps, position et temps, pour les piétons rho plus et les piétons rho moins, et à gauche c'est l'expérience, à droite c'est le modèle. Donc on démarre avec la même condition initiale, on laisse évoluer le modèle, et ce qu'on voit c'est que, même si on voit des petites différences, il y a un peu plus de bruit à gauche, on capture quand même correctement déjà les vitesses de propagation des surdensités dans le système. Voilà. Alors là, bon, j'ai commencé par les modèles macroscopiques. Je veux dire tout de suite que voilà, pour les piétons, ce n'est pas forcément le modèle idéal, même s'il permet de faire déjà des calculs en première approximation. Il y a un problème qui est pour l'instant pas résolu pour les piétons, c'est que avec une description fluide, on peut décrire que les systèmes sont incompressibles, ça on sait faire. Mais ce qu'il faudrait pouvoir décrire en plus, c'est qu'à une certaine échelle, c'est indéformable. C'est-à-dire un piéton, on ne peut pas l'écraser, le faire ressembler à une feuille de papier pour qu'il passe une porte. Et donc, ça fait qu'un système centré individu, par exemple, va décrire que l'évacuation d'un lieu est beaucoup plus lente que ce que décrirait le système macroscopique équivalent. Donc ça, voilà, c'est une question ouverte encore actuelle. Alors, entre ces modèles basés individus qui vont explorer les règles vraiment en détail d'interaction entre les gens, mais qui peuvent être très vite assez compliquées, et en tout cas, une étude analytique est souvent impossible. À l'autre extrême, on a ces modèles macroscopiques. On va donc tenter quelque chose d'intermédiaire, où on va capturer quelque chose de l'individu, mais de façon très grossière, et essayer de voir ce que ça implique à grande échelle. Donc, je vais déjà, même si vous avez eu un cours juste avant dessus, résumer ce que j'entends par processus d'exclusion. Donc, c'est un modèle discret sur un réseau. Souvent, ce sera unidimensionnel, mais parfois deux. Je considère des particules ponctuelles qui ont une dynamique stochastique et qui interagissent en particulier via une exclusion. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir deux personnes au même endroit. Et donc, vous en avez entendu parler dans le cours qui a précédé. Un exemple très connu, c'est le TACEP, que je vais considérer avec deux types de conditions limites, périodiques ou ouvertes. Donc en pratique, dans les conditions limites périodiques, pour le modèle TACEP, je peux tracer ce diagramme fondamental. Donc on a vu que c'était ρ1 moins ρ, le flux en fonction de la densité. Quand c'est des systèmes ouverts, là je vais pouvoir tracer le diagramme de phase. Donc là aussi, ça a été présenté selon... Si j'envoie beaucoup de voitures et qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui peuvent sortir, je vais avoir un gros embouteillage. Si au contraire, j'envoie peu de voitures mais qu'elles peuvent sortir facilement, j'ai une densité faible. Et puis, j'ai une phase où c'est la dynamique sur la route elle-même qui va limiter le flux. Ce qui est intéressant, c'est que même dans ce système simple, je peux avoir, donc, comme ça a été dit, transition du premier ordre, des transitions du second ordre. Et cette transition-là en particulier, ben, c'est une transition d'embouteillage, comme ce qui se passe sur les routes. Donc voilà, la question qu'on peut se poser, c'est quand même les processus d'exclusion, ça paraît des systèmes assez idéalisés, assez simples, est-ce que c'est pertinent pour le transport ? Alors ce qui fait qu'on peut les utiliser pour comprendre des choses en transport, c'est qu'il y a un certain nombre de points communs avec le transport dans l'espace physique. Il y a des contraintes géométriques, c'est-à-dire souvent on vit dans un espace à petite dimension, une ou deux, donc c'est plus difficile de se croiser qu'en trois dimensions. Il faut partager l'espace, donc il va y avoir des interactions, et en particulier via l'exclusion. C'est des systèmes hors équilibre, où on a la conservation de la masse, mais il va falloir aussi décrire comment ça se passe avec les flux rentrants et sortants. Et puis, comme on l'a dit, dans ces systèmes, il y a des transitions d'embouteillage. Alors maintenant, il faut que j'aborde un point qui est un peu technique, mais qui va être important pour mes applications, c'est les procédures de mise à jour. C'est-à-dire que quand on vous présente ça, on vous présente la géométrie du système, les règles d'évolution, mais en fait, un autre ingrédient qui est très important, c'est comment je mets à jour le système. Alors, dans le cours qui a précédé, ce qui était implicitement sous-entendu, c'est qu'on se plaçait en temps continu, où les événements se passent avec un certain taux, ou ce qui est souvent, informatiquement, on aime mieux des temps discrets, ce qui va être le plus près de cette dynamique en temps continu, ça va être une mise à jour séquentielle aléatoire, où on va choisir au hasard un lien. S'il y a une particule à gauche et pas à droite, on va la faire avancer avec une probabilité qui va dépendre du petit dt. Et puis, si on tire le lien d'entrée, ça va être proportionnel à alpha. Si on tire le lien de sortie, la probabilité va être proportionnelle à bêta. Et donc ça donne quelque chose qui est très proche d'une dynamique en temps continu si le petit pas est très petit. Mais cette dynamique, ce qu'elle dit, c'est que je peux par exemple choisir cette particule trois fois de suite, lui faire faire trois pas, et puis ignorer celle-là pendant un temps très long. Donc c'est des mises à jour qui ont des grandes fluctuations, beaucoup trop grandes pour que ce soit pertinent pour du trafic routier. Vous n'avez pas une voiture qui avance comme ça et puis l'autre qui la rattrape ensuite. Elles avancent toutes en même temps. Donc en fait, pour ces applications, on va considérer d'autres types de mises à jour. La plus utilisée en trafic routier, ça va être la dynamique parallèle. Je considère l'état du système à un temps T et toutes les particules vont évoluer en même temps pour le pas de temps suivant. Donc celle-là va pouvoir avancer, celle-là ne peut pas parce qu'il y a quelqu'un devant, celle-là avance, et puis je recommence de pas de temps en pas de temps. Alors c'est vraiment intrinsèquement différent comme mise à jour, c'est-à-dire que ce pas de temps, c'est vraiment une échelle de temps que j'ai introduit dans mon système, je ne peux pas rescaler pour faire ce que je veux. C'est une échelle de temps que j'ai introduite et qui est souvent interprétée comme le temps de réaction des conducteurs sur la route. Si je suis dans des situations où il y a des changements de file ou bien des croisements pour les piétons, je vais pouvoir avoir des conflits quand deux particules veulent aller au même endroit et donc il va falloir que je définisse dans mes règles ce que je fais quand il y a des conflits. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus régulier puisqu'en moyenne, chaque pas de temps, chaque particule a une fois la possibilité d'avancer. Alors ça a des conséquences sur les comportements du système. Par exemple, si je le considère en conditions limites périodiques, le diagramme fondamental qui avait cette forme pour la mise à jour séquentielle aléatoire va maintenant avoir cette forme-là si j'utilise une dynamique parallèle. Donc voilà, il faut être conscient qu'il y a des conséquences. Il existe plein d'autres mises à jour possibles, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Je vais m'en tenir à cette dynamique parallèle qui est celle qui est très utilisée en trafic routier. Alors, il y a une règle qui était utilisée dans des modèles plus complexes qu'on a essayé de reprendre sous une version simple, qui était le fait qu'une fois que je me suis arrêtée, je peux avoir un temps de réaction pour redémarrer. Donc là, ça va être traduit dans un modèle TACEP par le fait que si la voiture, au pas de temps précédent, a avancé, je vais la colorier en vert, si elle a été bloquée, elle va devenir rouge. Et une fois qu'elle est rouge, au pas de temps d'après, elle a une probabilité plus faible d'avancer. Donc ça dit qu'une fois que je me suis arrêtée, je vais avoir une probabilité plus faible d'avancer. Pardon. Alors ça peut paraître un peu mineur hein, comme changement, mais en fait ça va vraiment changer par exemple le diagramme fondamental. Donc je passe de cette forme triangulaire à une forme un peu différente. Pardon. ce qu'elle a de très particulier, c'est que pour une certaine gamme de densité, je peux avoir deux régimes de trafic. Je peux être en régime embouteillé ou en régime libre pour les mêmes densités. Et c'est des systèmes qui vont présenter aussi de l'hystérésis, c'est-à-dire si j'augmente peu à peu la densité, au départ, je vais monter sur cette branche, mais si je tombe en bas, je ne peux pas remonter direct. Il faut que la densité rebaisse par là pour pouvoir remonter sur cette branche. Donc ça explique aussi pourquoi sur la route, il faut éviter de former les bouchons, parce qu'une fois qu'ils sont formés, ça va être beaucoup plus difficile de les dissoudre. Donc on voit parfois ces consignes rouler à 60 à l'heure ou des choses comme ça pour essayer que le flux soit le plus régulier possible et qu'on reste sur cette branche-là, même si on a des densités déjà élevées. Alors ça, bon, c'est des beaux diagrammes fondamentaux tels qu'on peut les calculer avec l'ordinateur, mais comme je vous l'ai dit, en pratique, on mesure les choses avec des boucles et on a des ensembles de points. On calcule le nombre de voitures qui passent pendant 5 minutes, hop, ça fait un point. Alors on peut, dans les simulations, mettre des boucles magnétiques aussi, reproduire cette procédure. Et à ce moment-là, le système avec le temps de réaction donne ce diagramme-là qui correspond pas mal à celui-là. Alors évidemment, mon modèle, il est hyper simple. Hein. Il n'est pas question de dire que c'est un modèle réaliste. Mais ça veut dire qu'un modèle très simple, en fait, parce qu'il a les bons ingrédients, peut déjà capturer un certain nombre de choses qu'on observe sur le vrai trafic. Ici, il faut que le modèle soit stochastique. Et donc, il montre qu'il y a cette métastabilité. Il peut y avoir d'autres causes à cette métastabilité, mais nous, ce qu'on montre, c'est qu'un temps de réaction peut suffire à l'expliquer. Si je regarde le diagramme spatio-temporel, donc ça, c'est l'espace et le temps, je vois qu'à la sortie, il se nucléent des petits bouchons et que, toujours avec ce modèle avec temps de réaction, les bouchons vont nucléer et être de plus en plus gros quand on remonte l'écoulement. Donc là, c'est des données réelles. On a une entrée d'autoroute qui génère des perturbations. Et de même, si je remonte l'écoulement, je vois que là, il y a plein de petits bouchons et puis ils grossissent et il y en a de moins en moins. Donc on a l'air d'observer aussi ce type de coalescence de bouchons également dans les systèmes réels. Alors après, il existe des modèles beaucoup plus compliqués pour appliquer au trafic, où les voitures vont pouvoir sauter de plus d'une case. Ça, c'est vraiment le modèle le plus simple qui a été proposé au départ, mais il y a eu beaucoup d'améliorations, des capacités de freinage finies, de l'anticipation, etc. Mais il est important de mettre cette règle qu'on a une probabilité plus faible de démarrer quand on s'est arrêté pour avoir la métastabilité. Et il y a quelques systèmes qui utilisent ces méthodes. Ça, c'est en Allemagne, une région qui prédit, vous avez sur Internet la prédiction de trafic et le modèle qui est derrière, c'est un modèle d'automate cellulaire. Voilà. Alors, je vais passer aux piétons. Donc, on peut se demander pourquoi on étudie les piétons. Ce qui vient souvent à l'esprit, c'est qu'on veut pouvoir dimensionner des bâtiments ou des stades et tout ça, ou des gares, pour que ça se passe bien, soit en fonctionnement normal, qui est un écoulement fluide, soit pouvoir faire face à des évacuations d'urgence. En fait, une très grosse autre application des modèles de piétons, ce sont les jeux vidéo et les films. Il y a des logiciels qui sont utilisés pour calculer les déplacements de foule ou de tout ce que vous voulez qui se déplace en masse. Alors, toujours, là, je vous représente encore ces expériences que je vous avais montrées qu'on a fait dans le cadre d'un projet interdisciplinaire. Nous, ce qu'on voulait comprendre, donc, c'est la formation de structures dans ces systèmes. Les piétons ne décident pas, mais que finalement leurs interactions vont donner naissance à des structures. Donc là, c'est la plus simple. Dans un couloir bidirectionnel, il va se former des voies de circulation. Donc là, c'est la condition initiale. Et après quelques pas de temps, on voit très bien qu'on forme deux voies, et parfois quatre, parfois trois. Donc c'est aussi des transitions entre différents modes d'organisation. Quand on a des intersections entre deux flux perpendiculaires, alors si les piétons vont tous dans le même sens, ça va donner des structures en diagonale, et c'est de ça que je vais parler. Mais si c'était bidirectionnel, on observe la formation de ronds-points. Enfin, donc il y a un certain nombre comme ça de choses qui sont connues, de formation de structures spontanées dans les écoulements de piétons. Alors là, donc, je vous disais, c'est quand on a deux flux perpendiculaires, on peut former des diagonales. Il n'y a pas eu d'étude très systématique, mais c'est observé, là c'est dans des expériences, on voit le champ de densité, on devine un peu des structures plutôt diagonales comme ça. Dans les simulations, ça se voit un peu mieux. Là, on voit l'intersection. Encore un autre cas, là, je vais vous montrer celle-ci. On voit un petit peu qu'il se forme des diagonales au moment où les flux de piétons se croisent. J'avais des étudiants qui avaient fait un projet. Ah non, ils ne l'ont pas vu. Voilà, donc on les voit arriver. Alors, c'est un peu court. Ce qu'on voit, c'est qu'à cette zone, c'est désordonné. Puis quand ils sortent ici, ils sont plus en diagonale. Ici, je ne sais pas si vous avez le temps de le voir. Enfin, voilà une image qui montre un petit peu ces structures. Donc voilà, on a essayé d'étudier ce phénomène sur un système très, très simplifié où on va considérer les flux de piétons, on va les représenter comme des processus d'exclusion. Donc on dessine des couloirs avec des voies. Les piétons sont des particules qui sautent de case en case. On ne considère pas de changement de voie. Et on va considérer des densités suffisamment faibles pour qu'on soit en dessous de la transition d'embouteillage. Donc on va appeler les particules qui vont vers l'est les bleus et les particules qui vont vers le nord en jaune. Alors comme je vous le disais, il faut à chaque fois qu'on définit un automate cellulaire, il faut dire non seulement la géométrie et les règles, mais aussi quel type de mise à jour on utilise. Donc là, quand on est en 2D, la dynamique parallèle engendre des conflits. Donc là, on a pris des choses qui nous évitaient les conflits. Donc parallèle alterné, ça veut dire qu'on va faire avancer en parallèle tous les piétons qui vont vers la droite et ensuite en parallèle tous ceux qui vont vers le nord et on recommence. Et puis, un autre type d'update, parce qu'on voulait voir si c'était robuste, c'est de dire, ben, à chaque pas de temps, on va mettre à jour chaque particule une fois, mais on va le faire dans l'ordre d'un numéro qu'ils ont sur leur dossard. Donc, on tire au départ les dossards et ensuite, on met à jour selon ce... C'est un désordre gelé, si vous voulez. Donc, si je fais cette simulation, ici, je montre que l'intersection, on voit ces structures diagonales qui se forment. Alors, vous pouvez peut-être être étonné par la taille des intersections. Elles sont grandes parce qu'on a besoin d'être à faible densité pour ne pas avoir d'embouteillage. En fait, ce qui compte, le nombre important, c'est le nombre de rencontres que va faire une particule en traversant l'intersection. Ça, c'est la taille de l'intersection fois la densité. Donc, dans des vrais flux de piétons, ρ serait plus grand et m plus petit. Mais là, on a ρ faible et m grand. Bon, alors, si vous regardez, souvent, on voit à l'œil assez bien que ce n'est pas tout à fait des diagonales. On voit un peu un triangle en haut qui est plus bleu, un triangle en bas qui est plus orange. Et puis, ici, surtout, on le voit, il y a une espèce de cassure au milieu qui engendre deux familles diagonales. Donc, si j'exagère un petit peu, ça fait plutôt une forme de chevron. Si j'ai des conditions limites périodiques, par contre, j'ai des diagonales parfaites. Donc, c'est vraiment lié aux conditions d'entrée. Donc, conditions limites périodiques, j'ai les diagonales. Ouvertes, j'ai les chevrons. Si je fais périodique et ouvert mixte, eh ben, je vais avoir une des formes de diagonale penchée par rapport aux 45 degrés. Donc là aussi, ben, on va faire ce qui se fait classiquement. La première chose qu'on fait, c'est une théorie de champ moyen. Donc on va remplacer le fait qu'une particule soit ou ne soit pas dans un site par la moyenne correspondante, une densité. On va dire qu'il n'y a pas de corrélation entre particules voisines. On peut factoriser ces termes-là. Et puis, on va négliger les interactions entre particules de même type, ce qui revient à dire qu'on est à faible densité. Et une fois qu'on a ce modèle, qui présente aussi ces mêmes diagonales, on va pouvoir faire une analyse de stabilité linéaire et on trouve que cette analyse de stabilité prédit qu'il y a effectivement des diagonales qui doivent se former. On peut le faire aussi en conditions limite ouvertes. Le calcul est beaucoup plus compliqué, mais ça se fait. Et on reprouve qu'il y a des diagonales qui vont se former, mais on ne voit pas trace des chevrons, du fait que ces diagonales sont cassées. Donc ça, c'est vraiment un effet non linéaire. Alors, on voudrait comprendre par quel mécanisme microscopique ça se produit. Donc on va considérer l'interaction effective entre deux particules qui vont vers la droite dans un flux de particules qui va vers le haut. Donc ça, c'est des questions, d'interaction effective. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai, on ne met pas d'interaction entre les deux particules bleues, c'est juste la présence du fluide entre les deux qui va créer une interaction effective. Donc ça, c'est des choses qui ont été largement étudiées dans les systèmes de matière molle à l'équilibre. Ce qui est très connu, c'est les forces de déplétion. Et puis, plus récemment, les gens ont étudié ces interactions dans des systèmes hors équilibre, c'est-à-dire on a deux traceurs, mais dans un flux pour le fluide environnant. Alors, c'est des calculs qui sont souvent difficiles et qui sont toujours faits presque comme dans des cadres d'approximation. On fait des approximations où on regarde des cas particuliers où les deux sondes sont vraiment alignées avec le flux. C'est difficile de faire des calculs complets. Il y a eu aussi des calculs sur réseau. Là, c'est par exemple un cas, on a deux particules qui sont attirées dans un champ dans cette direction-là, et le fluide environnant va créer une interaction effective. Alors là, c'est numériquement qu'ils peuvent montrer qu'il y a cette interaction qui va... une interaction attractive effective entre les deux sondes. L'avantage, nous, comme on a pris des mises à jour qui sont relativement déterministes, même si c'est du désordre gelé, on va pouvoir faire des calculs exacts. En particulier, une fois qu'on a une particule bleue, on peut calculer exactement son sillage dans le flot jaune. Alors, ce n'est pas très étonnant qu'il ait cette direction-là. Imaginez un bateau qui traverse une rivière. Le sillage du bateau, il est emmené par le flot et donc il va plutôt être en diagonale. En diagonale, 45 degrés, si elles vont à la même vitesse, le bateau et le flux. Alors maintenant, on peut étudier très finement la structure de ce sillage en regardant... Alors, on va mettre un point blanc avant que la particule bleue bouge. Là, elle bouge. Hop, on met un point noir. Et puis, les particules jaunes bougent et elles advectent le sillage. Alors ça, c'est des points qui vont être vides parce qu'ils ont été occupés par la particule bleue dans le passé. Et on peut comme ça étudier la structure du sillage. Alors vous voyez que si la particule bleue a été gênée par une particule jaune, du coup, ça change un peu la structure localement du sillage. Et que finalement, on a deux types de lignes, soit avec deux points, soit un point et un obstacle. Et ça, c'est la présence de ce deuxième type qui va faire qu'on n'est pas exactement à 45 degrés, mais qu'on va avoir une correction qui va dépendre de la densité de particules jaunes. Alors, si on met une deuxième particule là-dedans, sachant qu'on a deux types de lignes, on a trois possibilités pour mettre la deuxième particule bleue. Et ensuite, on peut calculer toutes les transitions entre ces différents états et calculer au bout de combien de temps la particule bleue va sortir du sillage. Alors, si il n'y avait aucune interaction, s'il n'y avait pas de fluide jaune, et qu'on mette les deux particules bleues et qu'on regarde au bout de combien de temps la deuxième particule sort du sillage qu'aurait la première, on voit que ça décroît assez vite sa probabilité de rester dans le sillage. Et par contre, si on met le fluide jaune, va créer une interaction qui va faire que la deuxième particule va rester dans le sillage de la première. Alors, le temps où elle va rester dépend de la mise à jour. Ça, c'est pour la mise à jour où les particules avaient un dossard, donc avec un désordre gelé. Ça, c'est la mise à jour parallèle alternée. Alors là, vous voyez que la deuxième particule, elle reste pour toujours dans le sillage de la première. Et donc, ce mode-là, où on place des particules bleues dans le sillage de la première, c'est un mode qui est stable avec la dynamique parallèle alternée et qui va survivre un certain temps avec d'autres dynamiques plus bruitées, mais qui va rester plus longtemps que si c'était le pur hasard. Et alors, évidemment, après, il faut revenir au système complet où on a... Alors, si on est dans le triangle supérieur gauche, les particules qui viennent du bas ont déjà beaucoup traversé l'intersection. Elles sont déjà très organisées en diagonale. Donc là, ça va être l'inverse par rapport à ma figure d'avant. C'est les jaunes qui sont organisées en diagonale. Et les bleues, elles, qui viennent de rentrer, sont encore réparties de façon assez homogène. Et comme les jaunes ne prennent pas beaucoup de place, puisqu'elles sont en diagonale, les bleues vont finalement rester dispersées assez longtemps. Et on a l'inverse dans l'autre triangle. Donc on a du coup deux familles de diagonales. En haut, dans le triangle du haut, c'est les jaunes qui sont en diagonale, plutôt, et les bleus qui remplissent les trous, et dans l'autre triangle, ça va être l'inverse. Donc c'est pour ça qu'on observe ces différences et cette structure en chevron. Voilà, donc c'est un exemple d'interaction effective qui peut être résolue analytiquement. Pendant le problème complet, quand on revient au système avec les deux couloirs, on n'a pas tout résolu analytiquement, mais au moins ça nous donne une bonne compréhension de pourquoi on a ces structures en chevron. Et pour les vrais piétons, ce qu'on s'attend, c'est comme rho va être plus grand, qu'on va avoir des angles plus importants. Voilà, donc on a des expériences qui ont été faites en 2016 qu'on va analyser cette année, où on a considéré donc des piétons qui justement se croisent à angle droit. Donc ça vous donne une idée, hein, des matériels qu'on utilise. Ça, c'est un grand hall qui est fait pour étudier la physique du sport. On utilise des systèmes de tracking qui sont des systèmes utilisés dans l'industrie du cinéma. Quand vous avez un film en 3D, on va couvrir l'acteur de ces petites boules là. Et puis, les boules sont détectées par des caméras infrarouges. Donc nous, on n'a pas besoin d'avoir plein de boules sur la même personne. On en a juste, on fait une configuration sur un casque. Mais par contre, on peut avoir plein de personnes. Donc on peut utiliser ces systèmes qui sont extrêmement précis pour traquer le mouvement des piétons. Voilà. Alors, comme je vous avais présenté les modèles macro et les modèles intermédiaires, disons, mais très simplifiés, basés automates cellulaires, je voulais aussi vous représenter un petit peu les modèles microscopiques qui sont utilisés pour modéliser les piétons. Donc, les premières générations sont venues plutôt de l'informatique graphique pour voilà, faire les premières simulations de vols d'oiseaux, de mouvements de poissons en groupe. Après, il y a eu des modèles proposés plus par les physiciens qui ont dit ben, on va faire un modèle mécanique, mais où les forces seront des forces sociales. Donc, selon la position de deux piétons, il va y avoir une force sociale entre eux qui va faire qu'ils évitent de se rentrer dedans, etc., et qui vont être attirés par leur destination. Alors, c'est des modèles qui ont un gros problème, qui est la combinaison des interactions. C'est-à-dire que si vous avez deux piétons, bon, la présence du piéton rouge va exercer une certaine force sur le piéton bleu. Et c'est des modèles qui disent bah, s'il y a deux particules rouges, ça double la force. Et vous savez par expérience qu'éviter ces deux piétons ou celui-là, c'est à peu près la même chose. Donc ça ne peut pas doubler la force, en fait. Donc ça, c'est un problème intrinsèque à ces modèles basés force. Il y a eu des modèles d'automates cellulaires qui transforment une interaction à plus proche voisin en interaction à longue portée, en imaginant que les piétons laissent des espèces de phéromones derrière eux et que donc, ça crée un champ qui va influencer le mouvement des piétons qui suivent. Alors, j'ai mis isotropie problème, il n'y en a pas toujours, mais c'est un problème, il faut y être attentif, et les gens qui les utilisent n'y sont pas toujours assez sur le fait qu'il faut veiller à l'isotropie des modèles, et autant pour un fluide, on sait exactement ce qu'il faut faire pour que le modèle soit isotrope, c'est un peu plus compliqué pour un modèle piéton. Mais les modèles les plus prometteurs à l'échelle microscopique, c'est une nouvelle génération qui est apparu dans les années 2008-2010, qui sont des modèles basés vitesse. Donc on va regarder pour un piéton donné, il peut prendre toutes les vitesses dans le cône violet, parce que c'est en gros son champ de vision, mais la présence d'un autre piéton bleu, donc on peut prévoir que le piéton bleu va traverser une zone devant lui, et ça va lui interdire un certain nombre de vitesses. Et là, la combinaison des interactions est très facile à faire, parce qu'un piéton, ça fait un cylindre, qui va interdire des vitesses. Si vous avez deux piétons, c'est un autre cylindre. Trois piétons, c'est un troisième cylindre. Mais vous allez toujours ensuite chercher la vitesse. Dans cet ensemble des vitesses qui vous restent, chercher la vitesse qui est la meilleure pour vous. Alors après, bon, il y a des petites variantes, je vais passer. Et puis, il y a en plus un essai de... Parce qu'en fait, moi, piéton, je vais utiliser mon information visuelle pour me déplacer, et un processus cognitif pour décider ce que je fais. Donc, en gros, il y a deux types de signaux. Il y a le mouvement, je vais voir le mouvement du piéton dans mon image, c'est l'angle sous lequel je le vois qui va changer. Et puis, il y a aussi sa taille. Il va grossir, et là, je sais qu'il se rapproche de moi. Et donc, il y a des modèles qui essayent de modéliser ces deux types d'informations pour définir la navigation du piéton. Voilà, alors je vais passer à ma dernière partie pour passer vraiment à un système assez différent. Donc je ne sais pas si vous êtes tous familiers, en tout cas dans les cellules, nos cellules sont très organisées, il y a plusieurs parties, domaines dans les cellules qui correspondent à des fonctions différentes. Et on peut voir une cellule un peu comme une ville où il y a un besoin de produire de l'énergie, produire du matériau, supprimer les déchets, s'étendre et puis échanger avec l'extérieur. Et donc, pour relier ces différents endroits qui correspondent à différentes fonctions, il faut des routes. C'est encore plus vrai dans les neurones qui peuvent être très longs. Dans le corps humain, le plus long, il fait 1 mètre, donc c'est vous dire. Et c'est tout petit en largeur et c'est très encombré. Là, on voit une coupe dans l'axone. C'est très encombré par des filaments, des organelles diverses. Et donc, il y a vraiment besoin d'un système de transport efficace. Alors, les systèmes de transport, essentiellement, il y en a deux. Donc là, c'est le noyau en bleu. Hein. En vert, vous avez un réseau radial de microtubules. Donc, c'est des polymères assez rigides, qui sont des petits tubes. Et puis, le long des parois, il y a un autre réseau avec des filaments beaucoup plus souples. Mais je vais parler surtout du réseau vert, donc avec ces cylindres. Et sur ces cylindres, on a des molécules qui ont un peu des jambes et qui marchent. Alors, elles vont consommer de l'ATP, c'est une molécule d'ATP qui va venir se fixer. La réaction chimique d'hydrolyse va entraîner un changement de conformation et donc ces molécules vont faire un pas. Alors, il y a des molécules qui sont spécialisées pour aller dans un sens ou dans l'autre parce que les microtubules sont ce qu'on appelle polarisés, c'est-à-dire qu'à chaque endroit de la microtubule, en regardant le sol, c'est comme s'il y avait des flèches dessinées sur le sol à tous les endroits. On sait dans quel sens il faut aller pour aller vers l'extérieur ou vers l'intérieur de la cellule. Donc on a plusieurs types de moteurs spécialisés pour aller dans un sens ou dans l'autre et on peut accrocher sur ces molécules des objets à transporter. Et la dernière chose à savoir, c'est que ces molécules marcheuses, elles peuvent se détacher, diffuser un peu autour et se rattacher. Donc voilà, on a un système assez simple. Alors, une des questions, voilà, ce qu'on sait qui a été mis en évidence, c'est qu'en fait, souvent, il y a plusieurs moteurs qui tirent sur le même objet. Mais alors, on ne sait pas trop, du coup, comment se fait ce choix. Soit il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a qu'un seul type de moteur qui s'accroche, et ça définit la direction du cargo. Soit il y a deux types de moteurs, mais alors ils vont tirer dans des sens opposés. Soit il y a quelque chose qui vient se mettre pour neutraliser un des types de moteurs et qu'on puisse partir dans l'autre sens. Alors, il y a des systèmes où c'est ça, mais dans pas mal de situations, on est plutôt là-dedans. Je vous donne un exemple. Donc là, des endosomes, vous voyez des petites vésicules qui vont se déplacer. On les voit revenir sur leurs pas. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que quand elles reviennent sur leurs pas, donc ça, c'est le déplacement en fonction du temps. Donc là, elle fait demi-tour. Et au moment où elle fait demi-tour, si on regarde l'élongation de l'endosome, on voit qu'il est étiré. Et donc ça a fait penser aux gens qu'il était étiré parce qu'il y a deux équipes qui tirent dessus et qu'on est dans une situation de tir à la corde. Et si vous avez déjà joué à ça, vous savez que ça, c'est pas très efficace comme moyen de transport. Donc il y a vraiment une question, pourquoi la nature fait ça et comment ça peut marcher. Alors il y avait un premier modèle champ moyen qui avait, semble-t-il, résolu le problème en disant, si on décrit, donc c'est un modèle champ moyen parce qu'on décrit juste combien de moteurs de chaque type sont accrochés, on suppose que tous les jaunes tirent avec la même force et tous les bleus tirent avec la même force. Donc c'est pour ça que c'est un modèle de champ moyen. On met une dynamique stochastique pour les moteurs, ils peuvent se détacher avec un certain taux qui dépend de la force, ils peuvent avancer avec un certain taux qui dépend de la force. Et ce que ce modèle avait montré, c'est que selon les propriétés des moteurs, si quand vous tirez en arrière sur le moteur commence par s'arrêter de marcher, il y a rapidement plus rien ne va bouger. Mais si le moteur, quand vous tirez dessus, il se détache avant de s'arrêter, si les moteurs ont cette propriété, alors, juste par fluctuation, il y a une des équipes qui arrive à détacher l'autre. Et ça peut expliquer qu'on ait finalement du transport assez efficace. Donc, ce modèle, il prédisait que la distribution de vitesse, c'était une distribution bimodale, symétrique autour de zéro, ou s'il y a un peu des deux, trimodale. Alors, nous, on a essayé de reprendre, donc c'était la thèse de Sarah Klein en lien avec, c'était une co-tutelle avec Sarbruck, avec Luger-Santon. Donc, on a fait un modèle explicite, où cette fois-ci, on va décrire la position de chaque moteur. Donc, voilà le modèle, on a le cargo, les moteurs sont représentés juste par une boule qui va se déplacer de façon stochastique sur la microtubule. Et puis, elles sont liées par un ressort au cargo. Donc, la position du moteur par rapport au cargo va définir l'élongation du ressort et donc la force qui s'exerce sur chacun des moteurs. Donc, maintenant, les moteurs jaunes ne sentent plus tous la même force. Alors, comme je vous ai beaucoup parlé de mise à jour, je dois dire à ce niveau-là, quand je passe un... Donc, les moteurs sont décrits par un processus d'exclusion, ici. Et ici, la dynamique séquentielle aléatoire, c'est-à-dire celle en temps continu, est beaucoup plus pertinente, parce que là, on a vraiment un système stochastique. Il y a effectivement un moteur qui peut aller beaucoup plus vite que l'autre. Il n'y a pas de cette régularité qu'on a dans le trafic routier. Donc, on a une dynamique stochastique pour les moteurs avec un taux d'attachement, un taux pour sauter et un taux de détachement qui dépendent de la force exercée sur le moteur. Et puis, le cargo, lui, il évolue dans un espace continu. Alors, c'est surtout ça, on l'a mis pour être complet, mais en fait, c'est surtout une force visqueuse et puis la force exercée par tous les petits moteurs, la somme des forces exercées par tous les petits moteurs qui va déplacer le cargo. Alors là, on est un peu embêté parce que si on regarde la distribution de vitesse, ce qu'on croyait avoir compris par le modèle champ moyen disparaît. Et donc, on ne sait toujours pas pourquoi ce système est intéressant, puisqu'en fait, on obtient une distribution centrée autour de zéro. Alors, la première question qu'on s'est posée, c'est finalement, est-ce qu'on peut reproduire des observations expérimentales pour vérifier ce qu'on fait ? Donc, pour faire ça, il faut tenir compte d'une propriété très importante, c'est que les deux types de moteurs ne sont pas symétriques. Ils s'appellent la kinésine et la dynéine, et ils ont des propriétés très différentes. Là, c'est un exemple, le taux de détachement en fonction de la force. Vous voyez que sur les kinésines, quand la force devient très grande, elle se détache plus, alors que pour les dynéines, c'est l'inverse, elles vont s'ancrer dans le sol et s'accrocher. Mais elles réagissent également différemment par rapport à la quantité d'énergie qu'on leur fournit. Et donc voilà, on met ça dans le modèle. Et on veut savoir comment se comporte cet objet cargo-moteur. Alors, une des choses qui est mesurée dans les expériences, c'est le mean square displacement. Donc, pour rappel, si c'était balistique, on aurait un exposant 2. Si c'est purement diffusif, 1. Et puis, si on est en dehors de ces deux-là, on dit que c'est de la diffusion anormale, donc de la sous-diffusion si on est en dessous de 1, et de la super-diffusion ou sur-diffusion si on est entre 1 et 2. Alors bon, il y a un petit détail que quand on a des mouvements biaisés, il vaut mieux enlever le drift moyen pour pouvoir mesurer ces choses-là. Mais voilà, c'est ce qu'on va faire. Du coup, on va plutôt calculer la variance dans nos expériences. Bref, il y a un certain nombre d'observations expérimentales, alors de plusieurs types, hein, mais là, c'est des billes qui ont été mises dans des vraies cellules, des billes... Qui ont été recouvertes de quelque chose pour qu'elles soient transportées par les moteurs. Et donc, ce qu'on voit, c'est que c'est la courbe noire. Hein. Il y a, au temps long, on a une diffusion, une sous-diffusion, l'exposant 1,5. Et par contre, aux échelles de temps en dessous de 1 à 10 secondes, on va avoir de la super-diffusion. Alors, ça, c'est une autre expérience. On écrase des œufs et on fait une espèce de soupe et on met de nouveau des billes qui sont recouvertes de quelque chose qui va faire qu'elles sont prises en charge par les moteurs qui marchent sur les microtubules. Si on met dans la soupe des moteurs, des microtubules et de l'actine, on observe la superdiffusion. Si on n'a que la microtubule, on observe la superdiffusion. Mais si on n'a que l'actine, c'est de la sous-diffusion. Donc on va dire que le mouvement par les moteurs le long de la microtubule, ça crée de la superdiffusion. Et par contre, l'actine, c'est plutôt des obstacles, ça va empêcher la diffusion, c'est de la sous-diffusion. S'il n'y a pas de filament, bon, on observe de la diffusion comme on s'attend. Ce qui est intéressant, c'est les commentaires, hein, c'est que quand les gens ont observé la superdiffusion, ils ont dit, normalement, on devrait avoir un mouvement balistique, on s'attend à ça parce qu'on a en tête le modèle champ moyen. Donc, il doit y avoir quelque chose qui empêche ce mouvement balistique et on n'a que de la superdiffusion. Ça, c'est d'autres expériences. Donc, on observe de nouveau la superdiffusion ici. Vous voyez l'échelle, c'est des millisecondes. Là. Donc, la transition qu'on voyait avant, elle est ici, superdiffusion. Et là, ils vont plus bas. On voit qu'en dessous de la milliseconde, de quelques millisecondes, on passe en sous-diffusion. Donc, en gros, là, ce que nous disent les expériences, c'est sous-diffusion jusqu'à quelques millisecondes, superdiffusion jusqu'à quelques secondes. Et ensuite, ça dépend, il y a des effets de réseau, donc ça peut être diffusion ou sous-diffusion. Il peut y avoir les deux. De nouveau, on peut regarder ce qu'ils disent. C'est-à-dire cette super-diffusion gêne vraiment les gens. Ils disent que ça remet en cause le modèle cargo moteur et il faut un nouvel ingrédient. Là, ils invoquent les mouvements que les microtubules elles-mêmes pourraient être transportées. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent donner de la sous-diffusion ou de la super-diffusion. Un mouvement balistique sur un réseau complexe peut donner de la super-diffusion. Mais là, on est à des échelles de temps où les cargos n'ont pas le temps de changer de microtubule, on n'est pas dans ce régime-là. Donc nous, on a essayé de le simuler avec ce modèle explicite que je vous avais présenté. Donc là, ce qu'on observe quand on simule ce modèle, eh ben déjà, première bonne nouvelle, on observe bon, à grand temps de la diffusion, ça on s'y attend, mais quand il y a un crossover autour de la seconde vers un régime de superdiffusion, avec un exposant qui dépend un peu des paramètres du système. Donc déjà, on peut retrouver la superdiffusion sans ingrédient extérieur, juste par la dynamique spontanée du complexe qu'on a fabriqué. Ensuite, si je mets les fluctuations thermiques et que je vais voir à des échelles de temps beaucoup plus petites, et bien autour de la dizaine de millisecondes ici, je vais avoir une transition de nouveau entre la superdiffusion et la sous-diffusion. Parce que là, je suis vraiment dans des échelles de temps où les moteurs n'ont pas eu le temps de bouger. Donc, j'ai juste le mouvement du cargo sous l'effet des fluctuations thermiques. Il est prisonnier de tous ces petits ressorts qui sont fixes. Et ça me donne de la sous-diffusion. Et puis, quand je passe à des échelles de temps où les moteurs ont le temps de marcher, et bien là, je vais avoir de la super-diffusion, une espèce de persistance dans le mouvement de ce cargo. Voilà. Donc, ça, c'était un premier phénomène qui était observé, qu'on a pu expliquer. Ils observaient aussi dans les trajectoires de cargo des relaxations exponentielles qui faisaient penser qu'on relâche de l'énergie élastique. Et là aussi, c'était pas bien. Enfin, les gens ont suggéré, c'est possible d'ailleurs qu'il y ait cet effet, que ça pouvait être les microtubules elles-mêmes qui se tordent et qui restituent leur énergie élastique. Mais en fait, dans notre système, on a retrouvé les mêmes relaxations. Et là aussi, on pense que c'est l'énergie élastique qui est emmagasinée dans les ressorts eux-mêmes, c'est-à-dire au niveau des moteurs eux-mêmes, qui peuvent suffire à expliquer ces relaxations exponentielles. Donc voilà, on a reproduit quelques faits expérimentaux, mais on n'a toujours pas compris pourquoi la nature a choisi ce mode de transport. Donc il y en a deux. Il y en a un qui est que quand il y a des obstacles, le fait d'avoir de la superdiffusion, c'est-à-dire d'avoir un mouvement un peu plus persistant, va aider à passer au-dessus des obstacles. Donc prenons un cas où il n'y a pas d'obstacle, donc c'est le cas A, où j'ai la même viscosité partout, et j'imagine que la diffusion est plus efficace pour passer en dehors de l'obstacle que par mon système complet, mon complexe. Et puis je crée des barrières en augmentant dans certaines zones la viscosité, et je veux savoir combien de temps il faut pour sortir. Et là, si j'augmente la hauteur des barrières, je vois qu'à un certain moment, les deux courbes vont se croiser. C'est la verte qui va être au-dessus de la bleue, donc la diffusion va mettre plus de temps à sortir. Donc dans un environnement encombré, ça peut être plus favorable d'avoir cette dynamique de complexe. L'autre chose, c'est, comme je vous ai dit, les deux familles de moteurs ne réagissent pas pareil. Et donc, en changeant un seul paramètre extérieur, en fait, comme les deux équipes ne réagissent pas pareil, on peut changer l'équilibre entre les équipes. Donc, par exemple, ici, c'est un cas, on donne plus d'énergie. Donc, spontanément, on dirait, si je donne plus d'énergie, le cargo va aller plus vite. En fait, ce n'est pas ce qui se passe. Là, quand j'augmente l'énergie, le cargo allait vers la droite, et dans un premier temps, sa vitesse va se réduire, et va même s'inverser, il va partir dans l'autre sens. Et seulement après, il va se remettre à accélérer. Simplement parce que les deux familles de moteurs ne profitent pas de la même façon de cette augmentation de l'énergie et ça va changer mon équilibre entre les équipes. On peut le faire aussi pour la viscosité. Hein, pareil, on pourrait penser qu'une augmentation de la viscosité va ralentir le cargo. Là, c'est même encore, je trouve, un peu plus surprenant. En augmentant la viscosité, on peut accélérer le cargo simplement parce qu'il y a des moteurs qui tiennent moins bien quand on leur tire dessus. Et donc, on va de nouveau changer l'équilibre entre les deux familles de moteurs. Et donc, là aussi, on peut... Alors ça, c'est le déplacement en fonction de la viscosité. Donc, il y a certains régimes où on va freiner le cargo en baissant la viscosité. On peut aussi avoir des cas où ils changent de direction. Ça, ça peut être intéressant dans une cellule. Vous arrivez sur une zone encombrée, votre viscosité effective augmente et hop, ça fait changer votre direction. En tout cas, donc nous, notre hypothèse, c'est que si la nature utilise ces complexes, c'est parce qu'ils sont très contrôlables. Avec un seul paramètre, finalement, vous pouvez maîtriser de façon assez fine le comportement de votre cargo. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il faudrait, c'est contrôler ces hypothèses avec des manips in vitro. Donc là, il y a des collaborations en cours pour essayer de tester ça. Maintenant, on sait faire ça in vitro, c'est tout, ça date de 3-4 ans. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut tester dans des systèmes plus propres qu'une cellule où on n'est jamais à 100% sûr de ce qu'on mesure. Et le dernier petit mystère que je voulais vous exposer, auquel on s'est attaqué aussi par ces processus d'exclusion, c'est le fait que... voilà, là, je passe à une autre échelle. Chaque point, maintenant, va représenter un cargo avec ses moteurs, un complexe. Et donc, dans une cellule, donc, ces complexes vont avancer, se détacher, diffuser autour, se rattacher. Alors, là, on suppose que quand ils se détachent, ils peuvent diffuser très loin, se rattacher. Donc, on est plutôt dans une situation où on aurait un seul type de cargo et on serait in vitro, donc avec beaucoup de place autour. À ce moment-là, il y a des modèles qui ont été proposés, par Klump et Lipovsky en particulier, où donc on modélise comme ça le mouvement sur la microtubule par un processus d'exclusion, mais en rajoutant des règles, on se détache et on s'attache. Et ça, ça a permis d'expliquer des observations expérimentales où on voyait des bouchons se former à une extrémité de la microtubule. Donc ça marche pas mal, avec cette fois-ci un choc qui est localisé, c'est-à-dire qui reste à une position fixe. On n'est pas dans le cas de ce qui a été présenté en cours où il y a un choc qui se déplace tout le temps. Là, on arrive à localiser le choc et c'est prédit par le modèle. Mais quand on veut aller in vivo, on est obligé de tenir compte du fait que d'une part, c'est très encombré, il n'y a pas de diffusion infinie, on ne peut pas aller très loin par diffusion, et d'autre part, qu'il y a des cargos qui veulent aller dans les deux sens. Donc pour modéliser ça, on peut avoir deux types de cargos, là on a les ronds et les triangles, donc les ronds vont dans un sens, les triangles dans l'autre. Ils peuvent se détacher, mais ils vont aller pas très loin sur une voie voisine qui va représenter l'environnement, où il y a de la diffusion sans exclusion. Donc éventuellement ils peuvent se croiser, mais ils ne peuvent pas partir très loin de la microtubule, et puis se rattacher. Et ce premier modèle était un peu un échec, parce qu'on observe un gros bouchon, il n'y a pas de transport, et donc une cellule qui ferait ça, elle ne peut pas vivre. Et si on essaye de dire, oui, il y a plusieurs filaments parallèles, on peut rajouter un bouchon, c'est assez robuste. Et puis plus le système est gros, plus le bouchon est gros et il n'y a pas de trafic. Alors là, il y avait un autre ingrédient qu'on a essayé de prendre en compte. Les microtubules, les routes elles-mêmes, elles ont une dynamique elles aussi. Donc je vous montre par exemple là, c'est de la levure. On voit, je ne sais pas si vous voyez, c'est petit, hein, je vous le remets, on voit les microtubules en blanc qui se dépolymérisent et repolymérisent. Et en bas, c'est un neurone. Alors, on ne voit que le moment où elle polymérise, on ne voit pas la dépolymérisation, mais vous voyez qu'il y a une dynamique assez importante. Et en plus, toutes les microtubules sont dans le même sens. On a une dynamique comme ça. Et ça se fait sur des échelles de temps qui sont les mêmes que celles de la formation des embouteillages. Donc on s'est dit qu'il peut y avoir un couplage entre les deux. Alors là aussi, on a pris un modèle d'exclusion très simple. On a repris le modèle précédent qui ne marchait pas. Et on a dit qu'on va rajouter une destruction de la route. Alors avec un certain taux, on peut supprimer un lien. Et puis avec un autre taux, on va le reconstruire. Donc c'est vraiment une vision très basique de la dynamique du réseau de microtubules, mais vu à très grande échelle. C'était plutôt pour une démonstration de principe. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, on arrive à dissoudre dynamiquement l'embouteillage. Donc, pour le résumer, si je prends le flux de particules plus, par exemple, en fonction du taux de dépolymérisation, donc quand le réseau est statique ici, ben, j'ai un bouchon et le flux tend vers zéro quand la taille du système augmente. Donc ça, c'est très mauvais, on ne voit pas comment ça peut marcher. Mais si le réseau sous-jacent devient suffisamment actif, il y a un moment, une transition, où je vais empêcher dynamiquement la formation des bouchons. évidemment, si je détruis trop la route, ça va rebaisser très loin. Donc, il y a un optimum quelque part au milieu. Donc, voilà, ça, c'était de nouveau une hypothèse basée sur ces simulations de processus d'exclusion. Alors, il se trouve que pendant la thèse de l'étudiant en question, il y a eu des expériences où les gens ont pris des axones. Alors, il y avait en haut, c'est un axone normal. Et en bas, c'est un axone où on met un médicament qui va bloquer la dynamique des microtubules. Alors, dans l'axone qui marche bien, on a donc la dynamique des microtubules. Et puis en bas, c'est le mouvement d'un certain type de vésicule qui se passe bien. Bon, voilà. Et ensuite, si on bloque la dynamique des microtubules, en haut, au même moment, on observe que le transport ne marche plus. Alors, bon, le fait que ça se produise en même temps ne veut pas dire que l'un est la cause de l'autre. Il y a des phénomènes assez compliqués qui se passent. Mais disons que ça va dans le sens d'un faisceau de présomption pour dire qu'il y a sans doute une connexion entre ces dynamiques de microtubules et le transport. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc après, il reste à construire une image globale du transport dans l'axone. C'est vraiment un domaine assez passionnant pour savoir voilà, vraiment où sont toutes les sources de tous les matériaux, où se passe, comment se passe la renaissance des microtubules une fois qu'elles ont complètement dépolymérisé, comment elles se nucléent tout au long de l'axone, est-ce qu'elles ont la même longueur tout au long. Mais c'est à la fois passionnant parce qu'il y a plein de données qui arrivent et puis il y a un enjeu réel parce que dans les maladies neurodégénératives, un certain nombre, Parkinson en particulier, il se produit des embouteillages de ces moteurs moléculaires. C'est un des ingrédients, on ne sait pas trop à quel, voilà, ce qui est conséquence et ce qui est cause, mais en tout cas, ça joue un rôle important dans ces maladies neurodégénératives. On voudrait comprendre pour comment ça se passe, ces ratés dans le transport intracellulaire. Donc, en conclusion, les processus d'exclusion, donc c'est des systèmes très simples, mais qui permettent d'explorer quelques mécanismes qu'on pense présents dans les systèmes de transport. Donc, voilà, ça vient en complément, disons, de modèles plus réalistes ou d'analyses de données plus fines. Et puis, dans l'autre sens, le fait qu'il y ait en arrière-plan ces systèmes de transport a développé des intérêts pour des variantes des processus d'exclusion. Donc là, je vous avais montré le cas où les particules peuvent se détacher, se rattacher. Donc ça, c'est des modèles qui ont été très étudiés de façon théorique. D'autres exemples, c'est par exemple, les gens sont intéressés au système multivoie en pensant aux autoroutes, aux microtubules, où il peut y avoir plusieurs voies parallèles. Voilà, il y a un certain nombre comme ça de variantes qui ont été développées avec une application en tête. Et donc, la partie théorique avance avec les applications l'un avec l'autre. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.